dernier temps, en ce vendredi de notre série consacrée à l'histoire des femmes et du genre. En grande partie, aujourd'hui, nous parlerons de l'encyclopédie critique du genre qui vient tout juste de paraître aux éditions La Découverte. Mais puisque nous sommes vendredi, nous commencerons cette émission par un nouveau petit précis d'histoire à l'usage des candidats. Et puis nous recevrons ensuite Françoise Thébault qui nous parlera de la grande collecte sur les archives des femmes qui aura lieu à l'automne prochain et qu'elle a en particulier organisée avec d'autres, et on en parlera avec elle. Et puis ensuite, nous recevrons trois des auteurs de cette encyclopédie critique du genre qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Mais tout de suite, un nouveau petit précis d'histoire à l'usage des candidats.
5. Allez-y, madame, mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Comptez les deux registres.
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles ?
Non.
Oui, mais pour les recompter après. On laisse un et on met le vôtre. D'accord.
Et 20h, le scrutin est clos.
Et ce matin, le petit précis est tenu par Frédéric Savicky. Bonjour Frédéric Savicky.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Alors je vous emmène à Dunkerque en 1989 aujourd'hui. La série Le Baron Noir, diffusée sur Canal+, l'an dernier, dans laquelle le comédien Cadmerade, alias Philippe Rigvard, campe le rôle de député maire socialiste de Dunkerque, a pu faire penser à certains que les scénaristes s'étaient inspirés de Michel Dolbar, qui fut pendant 16 ans, jusqu'à sa défaite au municipal de 2014, le leader incontesté de la politique dunkerquoise. Tout oppose pourtant le héros de fiction Philippe Rigvard et Michel Dolbar. Le Baron Noir est à la fois un apparatchik et un élu de terrain enraciné dans sa ville, plus proche du monde ouvrier que du milieu patronal local, qui ne recule devant aucun mauvais coup pour devenir enfin ministre. Michel Dolbar est la figure strictement inversée de Philippe Rigvard, car c'est largement parce qu'il est ministre en exercice, comme on va le voir, qu'il a conquis en 1989 la mairie de Dunkerque. La trajectoire politique de Michel Dolbar éclaire en fait ce type de carrière politique propre à la Ve République que les politistes ont pris l'habitude de qualifier de carrière inversée, celle qui commence par les sommets de l'État avant de se poursuivre par la conquête et le cumul de mandats locaux. S'il n'est pas un haut fonctionnaire d'État, Michel Dolbar est bien en effet un technocrate. Géographe de formation, il est devenu au début des années 1970 le directeur de cabinet de Pierre Mauroy à la mairie de Lille, puis au conseil régional et enfin à Matignon en 1981. C'est Pierre Mauroy qui l'impose comme ministre après son départ du gouvernement en 1984 aux affaires sociales et à la formation professionnelle. Débute alors une carrière qui le conduit à intervenir fréquemment dans les médias dont il est devenu l'une des coqueluches. Son entrée en politique électorale débute elle aussi par le haut. C'est grâce au scrutin proportionnel qui entre en vigueur en 1985 qu'il est élu député du Nord pour la première fois, en même temps que conseiller régional. Il devient d'ailleurs dans la foulée le premier vice-président de la nouvelle collectivité élue au suffrage universel. En quête d'un territoire électoral, dans la perspective des élections législatives de 88 qui se déroulent à nouveau au scrutin majoritaire, il est contraint d'abandonner l'agglomération lilloise, où l'horizon est passablement bouché, et il se tourne alors vers Dunkerque. Après avoir obtenu le soutien du vieil Albert Danvers, le boss local issu de la SFIO, maire de la riche commune nucléaire de Gravelines, et surtout inamovible président de la communauté urbaine de Dunkerque depuis sa création en 1969. Il est élu député d'une circonscription qui ne regroupe cependant qu'un tiers de la ville de Dunkerque et entreprend alors de partir à la conquête de la ville-centre. Ville très ouvrière, du fait de ses activités portuaires et sidérurgiques, ville qui vote à gauche aux élections nationales, Dunkerque peut sembler a priori un terrain n'offrant aucun obstacle au parachutage d'un socialiste aussi capé. Mais la ville est solidement tenue depuis 23 ans par un maire de droite, Claude Prouvoyeur, qui met très peu en avant son étiquette politique et qui va offrir une résistance imprévue. S'il est vieillissant et s'il doit faire face à une situation économique difficile depuis la fermeture en 1984 des chantiers navals qui s'est traduite par la perte de près de 3000 emplois, sa proximité avec la population, son omniprésence dans la vie locale, sa bonhomie, sa disponibilité, sans oublier bien sûr tous les liens de clientèle et de fidélité qui se sont tissés au cours des ans, lui fournissent des ressources appréciables. C'est en jouant donc à fond l'image de la jeunesse, de la compétence et surtout de la connivence avec les milieux économiques que Michel Delbar va l'emporter, de justesse, avec 116 voix d'écart, au point d'ailleurs que le scrutin sera annulé et qu'il devra donc s'y reprendre à deux fois. Ces bonnes relations avec les milieux économiques locaux ont été établies et consolidées par l'intermédiaire du ministère de l'Équipement et des Transports dont Michel Delbar a la charge depuis 88. Ce ministère lui confère notamment la tutelle sur le port autonome. Le milieu portuaire, qui regroupe les responsables du port, mais aussi de nombreux chefs d'entreprise de transport et de fret, va jouer un rôle de premier plan dans la lutte qui oppose Delbar à Prouvoyeur. Moins par son poids électoral que par la caution d'hommes efficaces et économiquement compétents qu'il va lui apporter en affichant publiquement son soutien à Michel Delbar. Fort de cet appui, Delbar se présente comme le sauveur de l'économie locale et pour attester de ses qualités et de ses capacités d'action, il fait défiler les ministres à Dunkerque, de Laurent Fabius à Michel Rocard, en passant par Bernard Kouchner, Alain Decaux et Georgina Dufoy.
C'est pas mal.
Absolument. Mais ce registre de la compétence enferme quelque peu Michel Delbar dans un rôle de bienfaiteur sans ancrage local. On le soupçonne de n'avoir qu'un rapport instrumental à la ville. Et pour tenter donc de faire oublier son parachutage, il recourt à des ficelles dont la grosseur ne manque pas d'être dénoncée par ses adversaires. Ainsi, la distribution par ses militants d'un tract rappelant ses racines catholiques et flamandes, distribué le dimanche à la sortie des offices religieux, est vertement dénoncée comme un manquement grave à la bienséance. Et surtout, la participation de Michel Delbar à un chahut du célèbre carnaval de Dunkerque, sans être déguisé, et sa présence à un balcon de la Grand Place pour jeter des kippers, les fameux harengs fumés en flamand, à la foule, alors que cette pratique est strictement réservée aux maires de la ville, sont stigmatisés par ses adversaires, mais aussi par les animateurs des sociétés carnavalesques, très influents, et par la presse locale, qui y voit des manœuvres électoralistes en rupture avec la tradition. Delbar, Déomar, scandaleur les carnavaleux pour se moquer alors de lui. La campagne électorale de Michel Delbar, en fait, j'en viens à ma conclusion, illustre deux choses. D'une part, le fait que le rôle de maire entrepreneur, qui signifie aussi maire proche des entreprises, est alors un nouveau registre qu'endossent sans beaucoup de scrupules les membres de la génération montante du Parti Socialiste, qui tirent ainsi tous les bénéfices de leur participation au pouvoir. La campagne de Delbar illustre d'autre part le fait qu'un parachutage réussi suppose au préalable de se faire adouber par les barons et les militants locaux, bien sûr, mais aussi de ne pas en faire trop pour faire couleur locale. Il faut en quelque sorte laisser le temps aux électeurs de vous adopter sans leur forcer trop la main. Une fois élu, Michel Delbar y réussira tellement bien qu'on finira par l'identifier totalement à ce territoire et à le faire apparaître comme l'archétype du notable, une sorte de Philippe Rigvard donc. Alors qu'il est plus probablement l'archétype de ce que Jean-Pierre Godin nomme un technotable.
Merci beaucoup Frédéric Savicky et pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, ils peuvent vous lire dans la revue Politics, dans le numéro du quatrième trimestre 1994. Vous aviez écrit « L'homme politique en campagne, l'élection municipale de Dunkerque en mars 1989 ». Nous mettrons le lien sur notre site. Merci beaucoup ce petit précis d'histoire à l'usage des candidats. Et si vous voulez le réécouter ou le rajouter à votre série de podcasts, si vous avez commencé à les enregistrer sur vos ordinateurs et sur vos autres tablettes, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Ce petit précis est téléchargeable séparément du reste de l'émission. Séverine Diatta, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Françoise Thébault et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous étiez il y a deux jours, mercredi, pour une journée des droits des femmes donc aux Archives nationales. Ça s'appelait, à l'occasion de la journée des droits des femmes, Archives des femmes données et collectées. C'était une grande manifestation voulue par les Archives nationales et vous en étiez une des piliers, pourrait-on dire, de cette journée en tant qu'historienne. Quel était le but de cette journée sur les Archives des femmes, journée de réflexion et d'échange sur la collecte des Archives des femmes?
Je crois que c'est important de dire que cette journée est intervenue dans le cadre d'un projet de grande collecte. Il y a déjà eu plusieurs grandes collectes en France sur la Première Guerre mondiale, 2013-2014, sur les relations France-Afrique en 2016. Et la ministre de la Culture a lancé cette idée de future grande collecte autour d'archives personnelles de femmes. Et dans ce cadre, elle m'a confié une mission qui a réuni un comité de réflexion. Et ce comité de réflexion a choisi comme thème de la future grande collecte qui interviendra en novembre prochain, le thème très très large du travail des femmes, travail ménager, travail manuel, travail intellectuel, et aussi lutte sociale dans l'entreprise, groupe femmes d'entreprise, etc. Donc un thème très large qui peut regrouper et mobiliser, on l'espère, des Françaises et des Français qui auraient dans leur grenier des archives de leur mère, de leur grand-mère ou même d'aïeul. Alors, dans ce cadre, l'annonce a été faite par Madame Azoulay le 8 mars et des événements ont été organisés à la fois à Lyon, par le LARA, les archives départementales et la bibliothèque de Diderot, et à Paris, donc aux archives nationales.
Et d'un point de vue pratique, Françoise Thébault, ça va se concrétiser, il va y avoir des centres de ressources et de dépôts dans les archives départementales, comme ça s'était fait précédemment?
Oui, la procédure sera la même, il y aura un appel et les institutions archivistiques seront ouvertes pour accueillir donatrices et donateurs. Et naturellement, au-delà aussi du réseau des archives de France, seront mobilisées toutes les institutions spécialisées dans ce thème de recherche, la Bibliothèque Marguerite Durand, le Centre d'archives du féminisme, l'Association pour l'autobiographie, l'INA, la BNF, qui a déjà aussi des fonds de femmes.
Le propre de ces grandes collectes, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va obtenir, d'une certaine façon, en lançant cet appel. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous pouvez espérer ces dépôts de fonds qui pourraient nourrir, effectivement, à la fois le travail des historiennes et des historiens, mais aussi nourrir tout simplement les fonds des archives départementales ou nationales, Françoise Thébault?
Il y a une très très belle phrase qui a été prononcée dans ces réunions de comité, il faut laisser place à l'inconnu. Mais en même temps, sur ce thème du travail, on espère avoir peut-être des livres de comptes, éventuellement des livres de recettes, des journaux intimes, des correspondances, des tracts conservés par des militantes ou des grévistes, des photographies, des albums de photographies, tout ce genre de sources qui ne sont pas généralement collectées. Par exemple, a été donné aussi, comme plusieurs exemples ont été évoqués lors des réunions, les archives des déléguées départementales ou régionales aux droits des femmes ont été très très mal recueillies jusqu'ici, à part aux archives de la Côte d'Or à Dijon. Or, ça permettrait l'écriture, l'histoire d'un féminisme d'État décentralisé, c'est quelque chose d'important. Les archives des groupes femmes d'entreprise ont aussi été très très peu collectés. Et puis, on espère aussi faire surgir des archives d'individus ordinaires, hein, pour reprendre l'expression qu'utilise l'Association pour l'autobiographie.
Alors, ça nécessite aussi, d'un point de vue pratique, toute une mise en place institutionnelle, peut-être aussi, qui va classer ces archives? Parce que s'il y a abondance d'archives, tant qu'elles ne sont pas, j'imagine, classifiées, répertoriées... elles n'ont pas d'existence vraiment, et ça, c'est il y a une chronologie qui est établie, une temporalité pour réception des archives, classement.
Oui, un petit peu comme la procédure des collectes précédentes, hein, les institutions accueillent et après éventuellement, enfin le processus n'est pas encore totalement défini, mais il peut y avoir numérisation si les individus veulent récupérer leurs documents.
C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de déposer les documents originaux, on peut les garder par-devers soi, mais néanmoins les offrir en copie d'une certaine façon, et ce sont les archives qui procèdent à la copie.
Et ce sera aux institutions archivistiques de définir, et aux donateurs, hein, par contrat, de définir le processus par lequel se fera cette collecte d'archives. Alors, ce qui était intéressant dans les discussions du comité, c'était de souligner à la fois l'intérêt patrimonial et élargir les archives collectées par les institutions archivistiques, mais aussi l'intérêt scientifique, écrire une autre histoire grâce à de nouveaux fonds d'archives et de nouveaux questionnements. Et puis aussi, a été souligné l'intérêt, en quelque sorte, démocratique ou citoyen de l'aventure, hein, que notre patrimoine archivistique soit beaucoup plus mixte, soit aussi un patrimoine, et que les femmes prennent conscience de la valeur des traces qu'elles peuvent laisser et transmettre, et que l'ensemble des citoyens ait un autre regard sur ce qui est digne d'être conservé. Cette notion de dignité de l'archive a été beaucoup discutée.
D'ailleurs, vous avez commencé au début d'après-midi, mercredi, Françoise Thébault, c'était le témoignage d'historiennes, anthropologues, intellectuels qui ont versé en fait leur fonds d'archives, des personnalités connues en l'occurrence, dans différentes institutions.
Tout à fait. Alors, cette journée aux archives était organisée autour de deux tables rondes. La première, articulée autour de donatrices qui ont déjà donné leurs propres fonds.
Alors, Hélène Sixous, Catherine Dolto, par exemple.
Catherine Dolto pour les archives de sa mère, Noël Jérôme aux Archives nationales du monde du travail, Françoise Héritier et la réalisatrice Terry Vendamich qui a donné des archives à l'INA. Alors, les témoignages étaient absolument à la fois stimulants, intéressants, émouvants sur pourquoi donner à tel endroit, que signifie transmettre, transmettre des traces de son travail intellectuel, ne pas laisser une très belle expression de Catherine Dolto qui a dit « Je me suis sentie non pas ayant droit des archives de ma mère, mais ayant devoir. » Et d'autres ont souligné qu'il ne fallait pas imposer à ses enfants d'être des ayants devoir par rapport aux traces scientifiques laissées par la mère.
Et puis il y avait aussi un fonds absolument formidable que nous avons eu à connaître à la Fabrique de l'Histoire il y a quelques années, celui de Monique Hervault. Un fonds audio formidable, puisque Monique Hervault était une militante qui était aux côtés des immigrés algériens dans le bidonville de Nanterre dans les années 60.
Tout à fait, oui.
Et qu'elle a enregistré pour un livre sur les bidonvilles. Elle a enregistré des dizaines d'heures d'enregistrement de ces témoignages d'immigrés algériens dans le bidonville de Nanterre, et que désormais ce fonds est conservé, numérisé, et que c'est effectivement un magnifique fonds pour les historiennes et historiens de l'immigration, du rapport de la France et de l'Algérie, etc., dans les années 60.
Tout à fait. Et donc des extraits de ce fonds ont été projetés et présentés donc par conservatrice nationale et de la BDI. Il y avait une deuxième table ronde qui a donné la parole à tous ceux qui ont participé, toutes les institutions qui ont participé à ce comité, hein, la BMD, le Centre d'archives du féminisme, l'INA, l'APA, etc., pour qu'ils présentent des exemples de collecte. Quels fonds étaient particulièrement, quels souvenirs ont-ils d'un fonds qui leur a été apporté, hein, donc ça c'était extrêmement intéressant, et quels seraient leurs vœux hein, vis-à-vis de cette future grande collecte. Alors à l'occasion, et je crois que c'est important de le redire à la radio, dans le comité, et hier aussi a été soulevée la question de la bibliothèque Marguerite Durand, hein, qui est véritablement la bibliothèque historique de collecte d'archives de femmes, hein, puisque c'est un don de la féministe Marguerite Durand à la ville de Paris en 1932. Et cette bibliothèque doit prochainement déménager dans le cadre de l'agrandissement de la médiathèque dans laquelle
elle réside,
la médiathèque Jean-Pierre Melville dans le 13e arrondissement. Et il nous paraît important, à la fois à tous les membres du comité, à tous les historiens et historiennes qui travaillent sur ce sujet, qu'ils soient français ou étrangers, que la bibliothèque ait les moyens
de fonctionner,
poursuivre sa mission, de fonctionner comme lieu de collecte, de conservation et lieu qui permet une consultation dans de bonnes conditions pour les chercheurs à la fois français et étrangers. Enfin, c'est une bibliothèque à statut municipal mais qui a une portée internationale.
Merci beaucoup Françoise Thébault. Donc on se donne rendez-vous, j'imagine, à l'automne prochain pour cette grande collecte d'archives donc des femmes qui permettra de faire suite à d'autres grandes collectes telles qu'elles ont existé des années précédentes. Merci encore Françoise Thébault. Nous continuons notre émission d'aujourd'hui avec une entreprise gigantesque, avec trois des personnes qui ont contribué à cette encyclopédie critique du genre parue aux éditions de la Découverte récemment, avec vous, Juliette Rennes. Vous êtes la coordinatrice, la directrice de cet ouvrage. Vous êtes maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Avec vous, Clyde Plumosil.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse postdoctorante à l'École des hautes études en sciences sociales et allocataire de recherche à l'Institut Émilie du Châtelet, qu'il faut saluer comme lieu de recherche sur l'histoire des femmes et du genre. Et avec vous, Rosemarie Lagrave, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et peut-être... pour commencer notre discussion qui va durer une demi-heure autour de cette encyclopédie critique du genre, évoquer pour nos auditrices et pour nos auditeurs ce glissement, pourrait-on dire, entre l'histoire des femmes et l'histoire du genre tel qu'il s'est produit et que vous avez eu à le connaître, Rosemarie Lagrave.
Absolument. Je dirais, pour paraphraser le titre du bouquin de Stenberg, « Les femmes ont toujours fait des sciences sociales ». Et il y a une thèse qui est publiée au CNRS d'Hélène Charron qui montre fort bien que dès la naissance des sciences sociales, les femmes ont été présentes, qu'elles soient diplômées ou non, avec des malheurs et des bonheurs divers, mais néanmoins elles étaient là, elles faisaient les petites mains. Et j'en veux pour preuve un article de Nathalie Zemon Davis sur les femmes et le monde des annales, où elle montre comment les épouses d'eux bloquent de Fèvre, le statut qu'on a donné à Lucie Varguin, qui a été méconnue pendant un certain nombre de temps, montre que c'était toujours les petites mains. Elle faisait les archives, elle faisait des notes, mais elle n'était quasiment jamais citée, ou de temps en temps, leurs grands hommes les remerciaient pour le travail, mais elle n'écrivait jamais de leur en premier lieu.
On se souvient par exemple de Madame Chaunu qui avait participé à l'immense ouvrage de Pierre Chaunu sur Séville et l'Atlantique. Je crois que ça faisait plus de 10 000 pages et je pense que si je me souviens bien, c'est elle qui a tapé les 10 000 pages en l'occurrence et qui a travaillé à la façon de l'éditer d'une certaine façon pour son propre mari et Pierre Chaunu.
Absolument, mais toutes ses épouses étaient sévriennes pour certaines. Elles avaient des diplômes d'études supérieures. Mais néanmoins, elle faisait les grades papier et un travail d'ailleurs très intéressant dans les archives. Mais elle n'était pas autrice.
Elle n'apparaissait pas.
Elles étaient invisibles. Elles restaient invisibles, sauf quand leur mari les remerciait. Mais on a vu peu à peu s'insérer et accéder au monde académique à partir de l'après Deuxième Guerre mondiale, à la fois au musée social, mais à la fois aussi en anthropologie. Des élèves, par exemple, de Marcel Mauss, d'Eterling et les autres, qui ont commencé à effectivement partir dans des pays colonisés pour faire de l'anthropologie, mais aussi on voit toute une génération de sociologues qui commencent à faire des recherches sur le monde du travail, sur les mouvements sociaux, on n'appelait pas ça comme ça, sur les luttes sociales. Donc nous sommes redevables, si j'ose dire, à toute une génération assez méconnue, sur laquelle on n'a pas assez travaillé, mais qui nous a formés, qui nous a transmis. Alors, il y a eu des recherches, comme on disait, sur les femmes, sur la condition féminine. Puis sont arrivées les années 70, où là, il y a eu une histoire des femmes, notamment avec Yvonne Knibiller, Michel Perrault, toutes celles qui nous ont faites, si j'ose dire, et qui ont commencé à faire l'histoire des femmes. C'est-à-dire, et on le voit bien avec ce qui a été dit sur les archives, donner une visibilité, aller chercher dans les archives ces femmes qui étaient invisibles, tant dans le monde du travail que dans la politique, que dans les mouvements sociaux. Et il y avait, j'allais dire, deux biais. Soit, effectivement, on s'attachait à réhabiliter toutes ces femmes en leur donnant une visibilité, c'est-à-dire les femmes sont puissantes, regardez. Soit, au contraire, on s'attachait aux misérables, c'est-à-dire effectivement, elles sont dominées,
aux anonymes,
aux misérables.
Aux inconnus des archives.
Et donc, il y avait une espèce d'oscillation constante entre les deux. Puis, il m'a semblé qu'il y avait un moment où on est passé de l'histoire des femmes à une lecture sexuée de l'histoire tout court. Et ça, c'était très important. Et je pense que ce tournant-là a fait que, pour la première fois dans l'histoire des femmes, si j'ose dire, il y a eu une lutte à l'intérieur du champ académique sur deux fronts. Un institutionnel, pour le faire reconnaître comme légitime des recherches et des études sur les femmes qui étaient illégitimes. J'en veux pour preuve qu'au CNRS, certaines de mes copines, elles cachaient ce qu'elles avaient. Elles ne marquaient pas sur le... quand on leur demandait des bilans, elles ne marquaient pas. C'était illégitime. Et puis, une lutte proprement intellectuelle et scientifique pour essayer de faire advenir une histoire critique sur... l'histoire à partir d'une épistémologie féministe qui peu à peu effectivement prend corps et qui a été très difficile. Donc il fallait vraiment tenir les deux. Et le troisième, c'était aussi d'avoir un lien avec les mouvements féministes. Et ça a été dur parce que dans les années 70, lorsqu'on a commencé à faire l'histoire des femmes ou la sociologie, des rapports sociaux de sexe, beaucoup de féministes nous disaient « mais vous vendez la cause des femmes à l'université, vous êtes des traîtres hein. ». Donc il a fallu toujours faire attention sur les trois.
Négocier d'une certaine façon et discuter.
Pas forcément discuter, mais il y a des débats là-dessus.
En tous les cas, cette notion de genre qui apparaît donc plutôt, on va dire, au début des années 70, d'abord aux États-Unis et qui va arriver rapidement, elle va inclure aussi une pluridisciplinarité, on l'a compris, sociologie, sociologie, anthropologie, histoire, et devenir réellement, alors vous le dites bien hein, dans l'encyclopédie, un mode opératoire d'analyse, un outil extrêmement précieux, Juliette Reine. Et c'est aussi la vocation de cette encyclopédie, c'est de montrer combien c'est un outil. Alors, on disait catégorie d'analyse utile, enfin, je ne me souviens plus du nom de ce fameux article.
Pour John Scott.
John Scott. Et donc, aujourd'hui encore, et plus que jamais, ça devient voilà, un outil d'analyse pour plusieurs disciplines.
C'était une des ambitions de l'encyclopédie, c'était la transdisciplinarité, qui est beaucoup, souvent un mot d'ordre au sein des différentes disciplines des sciences sociales. Mais c'est vrai que nos mondes académiques sont très structurés et organisés par discipline et avec des frontières assez rigides. Et le genre fait partie de ces questions, concepts, catégories d'analyse, regards sur le monde qui sont effectivement voyageurs et qui permettent de, à partir d'une thématique quelconque, d'explorer ce que le genre fait à cette thématique, mais aussi aux disciplines qui l'ont appréhendée. C'est-à-dire que on n'a pas voulu, nous, prendre le point de vue d'une sous-discipline des sciences sociales, même s'il y a chaque auteur appartient par sa trajectoire à une discipline, mais il y a beaucoup d'auteurs de notices qui sont co-signées par un anthropologue et un historien, un linguiste et un historien de l'art par exemple, on a voulu montrer, obliger en tout cas ces auteurs à se confronter à ce que le genre fait, non pas seulement à sa discipline, mais sur une thématique donnée, à une diversité de disciplines.
D'ailleurs, on le voit bien, on le perçoit bien à travers plusieurs notices. Il y a des approches à l'intérieur d'une même notice, à chaque fois, historique, sociologique, anthropologique, anthropologie biologique, hein, on va dire, qui est une discipline très importante aussi, qui a fait avancer beaucoup, justement, cet outil d'analyse, Juliette Reine.
Oui, l'anthropologie biologique, et puis pour faire le lien avec l'histoire que citait Rosemary Lagrave, l'histoire des sciences aussi, la façon dont des historiennes des sciences ont revisité des catégories d'analyse qui paraissaient, disons, dévolues aux sciences du vivant et aux sciences biologiques, en montrant qu'elles-mêmes, elles étaient historiques, hein, comme la notion de sexe, d'anatomie, qui ont permis aussi d'historiciser non pas seulement le genre comme entendu de façon assez limitée, comme des comportements sociaux différents entre les sexes, mais aussi comme la façon dont on perçoit et on se représente des différences anatomiques comme étant transhistoriques. Et en fait, on se rend compte que les pratiques sociales elles-mêmes ont des effets sur les corps, la corpulence, la taille, le poids, la musculature, la voix.
Ouais. Le travail de Priscille Touraille, par exemple, sur ces questions. Donc, il y a des entrées, comme dans une encyclopédie, Juliette Reine. Ces entrées sont simples, a priori. Le poids, le plaisir sexuel, les objets, la nudité, le mythe, la métamorphose, la jeunesse et la sexualité, par exemple. Ces entrées, vous les avez décidées comment? Parce que j'ai cru comprendre que cette encyclopédie critique du genre était un véritable travail collectif par rapport à d'autres travaux qui peuvent être collectifs dans les faits, mais peut-être pas pensés collectivement d'une certaine façon, Juliette Reine.
Oui, effectivement, j'ai soumis un projet qui était un peu différent et beaucoup plus large à la découverte, et les discussions avec l'équipe scientifique, Rosemary Lagrave et six autres personnes de cinq disciplines différentes ont permis d'essayer de regrouper à partir d'une cartographie très large qu'on avait initialement faite de termes, de domaines des études de genre depuis 40 ans, d'essayer de circonscrire un certain nombre de thématiques qui avaient été particulièrement renouvelées par les travaux de ces 15 dernières années. Le point de vue n'a pas été, évidemment, de faire une approche exhaustive. Le terme encyclopédie pourrait laisser croire qu'on a eu l'illusion de viser une exhaustivité. En fait, le terme a été choisi plutôt parce que on a incité chaque auteur sur sa thématique à avoir un panorama large, à historiciser son objet. Donc, c'était un peu plus ambitieux, y compris par la taille des articles qu'un dictionnaire. Mais il y a un point de vue dans cette encyclopédie, un point de vue situé, qui est celui de partir du contemporain et des domaines qui nous ont semblé les plus transformés par les recherches de ces 15 dernières années.
Et paf, il faut se colter, Clyde Plumosi, l'article prostitution qui n'est pas le plus simple quand on travaille en histoire, en histoire du genre. C'est un sujet dont on sait à la Fabrique, pour l'avoir traité plusieurs fois, qu'il déclenche beaucoup de discussions entre les visions de féministes différentes, de tendances différentes. Et donc, c'est vous qui vous êtes colleté à cet article prostitution. Vous en êtes spécialiste puisque vous avez travaillé pour votre travail de thèse sur la prostitution pendant la Révolution française et un peu après, pendant le Premier Empire, en l'occurrence, Claude Limousine.
Effectivement, j'ai choisi de garder le titre de prostitution plutôt que de travail du sexe, bien que je l'emploie après dans la notice pour expliquer justement comment ce dernier s'est constitué comme un lieu de revendication pour une identité positive des individus qui pratiquaient la prostitution et donc ce qu'ils viennent à renommer le travail du sexe. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié en participant à cette entreprise collective, c'est que cette encyclopédie, et c'est très important pour nous qui travaillons sur les femmes, le genre, la sexualité et le corps de nos jours, c'est une boîte à outils. Et chaque notice, on avait une charte, et c'était très agréable de travailler avec cette charte justement pour rédiger sa notice, qui était une charte qui n'était pas du tout une prescription, voilà, une obligation, mais une incitation au partage des connaissances, et même nous, à nous resituer par rapport à ce qu'on savait, et à nous resituer dans le champ plus large des sciences humaines et sociales penser notre objet.
Concrètement, ça dit quoi justement ? Expliquez-nous ce que ça fait justement cette charte sur l'écriture d'un article dans une encyclopédie comme celle-ci.
Ça veut dire que moi j'arrive en tant qu'historienne de la prostitution sur mon petit objet qui est la prostitution à l'époque révolutionnaire, mais ce que je dois faire dans cette notice, c'est mettre au jour les auteurs, les concepts, les grilles de lecture avec lesquelles j'ai travaillé, me situer par rapport à ces grilles de lecture qui relèvent toujours d'un choix. Puisque pour le coup, moi effectivement, je pense que la prostitution, si elle est le lieu d'une domination des rapports sociaux de sexe, de classe, de race, de sexualité, peut être aussi une possibilité pour des individus de jouer avec des stratégies, de faire valoir certaines marges de manœuvre dans la société, de déstabiliser le sort qui leur est fait dans le monde dans lequel ils agissent. Et rien que ça, en fait, c'était un parti pris. Et avec la charte, je devais expliciter mon parti pris, et ce qui permettait du coup de dialoguer. Voilà, je dis d'où je parle. Je dis quelles sont mes postures en tant que chercheur d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue éthique. Et voilà, pour le coup, je pense que c'est ce qui permettait de déjouer la notice aussi problématique qu'elle soit de prostitution quand on se retrouvait face à...
On faisait un retour historiographique à chaque fois, c'est d'accord. Exactement. Tous les points de vue, enfin un retour critique sur la discipline elle-même, quoi.
Rosemarie Lagrave.
Oui, et sur les concepts, ce qui est chouette dans chaque rubrique, c'est que commencent toujours par non seulement expliciter le choix, comme tu l'as dit, mais aussi reprendre la genèse d'un concept et pourquoi, et quels usages on en a fait, et pourquoi on choisit à l'intérieur de ça. Et je voudrais souligner quelque chose d'important. Avec tout ce qu'on entend sur les soi-disant théories du genre, merci, bonjour. Je veux dire, on voit bien avec cet ouvrage que le genre est un outil analytique, exactement comme quand vous avez un outil pour piocher la terre. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh ben, c'est effectivement trouver quelque chose. Eh ben, le genre, on s'en sert pour essayer de montrer que dans les sociétés historiques, ethnologiques ou contemporaines, il y a effectivement des inégalités, des rapports sociaux très inégaux entre ce qu'on appelle communément les hommes et les femmes, et que c'est ça qu'il faut faire apparaître et mettre au jour.
Mais du coup, c'était une réponse aussi au débat justement assez idéologique quand même depuis une dizaine d'années sur cette question. Enfin, une réponse en tous les cas.
C'est pas une réponse parce qu'on
en direct,
on continue notre chemin nous, mais on se laisse pas piéger par ces pseudo-théories qui n'existent pas, qui ont été vraiment.
Claire Plumosil et puis Juliette Rey.
Et juste par rapport à ça, pour rebondir sur ce que disait Rosemarie Lagrave, ce chemin, c'est quoi ? C'est l'entreprise de dénaturalisation que s'est proposé le féminisme depuis les années 60-70. Et je trouve que le côté collectif de l'encyclopédie, qui se joue d'ailleurs même dans l'équipe qui a dirigé le projet, dans la façon dont on a communiqué autour de la rédaction de ces notices, a permis véritablement de se ressaisir de cet objectif qui est le nôtre quand on travaille sur les questions de genre, de femme et de sexualité. On n'est pas dans un champ neutre neutre de savoir, on agit avec une volonté qui est de décrypter, quand on est historien, le passé pour évidemment mieux comprendre son présent, mais aussi, quand on travaille sur le genre, de dénaturaliser les catégories du sens commun qui, dans lesquelles on est encore enserré. Et rien qu'un mot comme prostitution, en fait, on voit qu'il est source de 1000 pièges qu'il faut détricoter.
Il y en a beaucoup des pièges dans une encyclopédie critique du genre, Juliette Rennes, j'imagine, ça n'est pas le seul, ce piège de la prostitution, de ce terme de prostitution.
Oui, alors il y a différents types de pièges. Il y a effectivement les thématiques qui sont aussi des enjeux politiques de controverse, comme la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, la pornographie, qui sont sources de clivages entre les féminismes. Mais il y a aussi, je dirais, des pièges qui se situent à l'intérieur des études de genre, indépendamment même des controverses politiques qu'il peut y avoir sur certaines thématiques. Le terme de critique qu'on a voulu employer et n'est pas seulement ce qui a été rappelé de contribuer à donner à voir comment fonctionne l'ordre social et à dénaturaliser ce que le sens commun attribue à un ordre du monde indépassable, mais c'est aussi porter sur nos propres champs de recherche un regard critique en se méfiant, je dirais, de différents types de centrisme, ethnocentrisme, centrisme de classe, validocentrisme. Hein,
ou, qu'est-ce que vous appelez validocentrisme?
Alors, je prends cet exemple parce qu'on a une entrée handicap dans l'encyclopédie critique. En fait, le féminisme, en termes d'épistémologie à l'université, comme l'a rappelé Rosemary, s'est construit un peu pour rendre visible l'androcentrisme à la façon dont les sciences sociales avaient été construites à travers un point de vue masculin en invisibilisant l'expérience et le point de vue des femmes. Mais les études de genre ne sont pas, disons, immunes de la possibilité de reproduire d'autres points de vue situés, d'autres formes de domination en invisibilisant, par exemple, les rapports de classe, mais aussi le fait qu'on peut produire des connaissances qui impliquent un sujet valide et ne pas rendre visible l'expérience de personnes catégorisées comme handicapées ou ayant des difficultés.
Ça veut dire que c'est un outil, comme le disait Rosemary Lagrave, mais qu'il permet de se déployer dans le champ du social d'une certaine façon en ouvrant toujours des nouveaux champs. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais au champ que l'on travail que l'on parcourt, mais on se dit tout compte fait avec cet outil, je peux travailler, imaginer l'ouverture de nouvelles problématiques qu'on ne se posait pas auparavant parce qu'on ne pensait pas qu'on était au centre d'une façon d'être, une façon de se penser en société, par exemple, Juliette Rennes.
Oui, c'est un peu le trajet intellectuel des études de genre qu'on a voulu suivre sur ces 15 dernières années. Le genre en tant que pensée à la fois théorique, hein, même si il y a une diversité de travaux théoriques et empiriques sur les rapports entre les sexes, a permis de penser d'autres dominations et d'élargir le spectre des rapports sociaux, y compris des rapports sociaux entre femmes. C'est un des fils conducteurs de cette encyclopédie, c'est aussi de pouvoir penser des dominations entre femmes, c'est-à-dire le fait d'être une femme n'est pas en soi une condition suffisante pour se définir comme le sujet dominé par excellence.
Alors, juste pour revenir, l'intégration de cet outil, enfin, d'analyse de la société et dans quelle mesure, on l'a vu, on l'a déjà abordé, cet outil aussi, ces études de genre, ce mode d'analyse dérange quelque part la société parce que ça déstabilise, comme vous le disiez aussi, Clyde Plumézil, des idées reçues, des hiérarchies, des dispositifs, à la fois de surveillance, de contrôle, on le sait pour la prostitution et pour d'autres catégories de personnes. Donc, voilà, c'est dans quelle mesure les études de genre alors s'intègrent ou non, justement, dans l'institution et comment, si elles dérangent.
Rosemary Lagrave.
Elles dérangent, oui et non, il faut faire attention. Juliette Rennes a dit un mot très important, le mot critique est important. Parce que comme vous le savez, dans le monde actuel, y compris politique, le genre est partout, n'est-ce pas? Mais il est nulle part. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du mainstreaming, en fait, il y a une espèce de à la fois de féminisme d'État, on va pas totalement s'en plaindre, mais néanmoins, il n'est acritique. C'est-à-dire il ne dévoile pas les types de domination croisées qui sont à l'œuvre dans notre monde. et dans notre monde social. Et le genre permet justement de réouvrir une boîte noire et de donc de constamment s'articuler avec d'autres types de domination, que ça soit sur les sexualités, les classes sociales, la racialisation, le handicap. Et donc c'est le genre, il ouvre.
Oui, mais c'est quand même un exercice d'intranquillité.
Ah ben absolument.
Oui, donc vous comprenez bien pourquoi dans la société aujourd'hui, ça peut être, disons, perturbant, l'exercice du travail intellectuel autour et à partir de cette notion de genre, en l'occurrence Rosemary Lagrave.
Mais tout à fait. Mais qui a dit qu'il fallait être tranquille? L'intranquillité, c'est le bas des sens sociaux.
Je dis juste qu'effectivement, ça gêne.
Il y a un caractère subversif.
Il est subversif, mais le temps qu'effectivement, on n'a pas découvert ce qu'il pouvait faire, les effets de genre. Hein, mais je pense que c'est un point important. L'intranquillité, je la revendique, moi.
En tant que chercheuse. On a bien compris, Claude Plumosil.
Je seconde cet appel à l'intranquillité, parce que je vais emprunter une expression de Rosemary Lagrave dans un ouvrage sur la prostitution autour du continuum d'échanges économico-sexuels. Elle parlait de cette notion, mais on peut l'appliquer au genre et à sa dimension critique, comme un programme de vigilance méthodologique. Et je pense que cette dimension critique, elle est subversive, mais à bon escient, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse toujours aux présupposés des énoncés dans lesquels on vit, mais elle est aussi subversive dans le sens où elle nous appelle à la vigilance, à toujours être conscient que nous, en tant que chercheurs, en éveil, on produit des vérités provisoires qui sont des lieux de discussion, mais qui restent toujours ouverts justement à la transformation. Et heureusement, parce que sur la question du genre et du féminisme, sinon on aurait oublié le black féminisme, le féminisme chicanas, la question du handicap. Il faut se tenir à la frontière et être toujours à l'écoute de l'ensemble des...
Et il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, malgré 20 minutes de discussion avec vous quatre. C'est le mot d'intersectionnalité. Qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité, Juliette Rennes, et en quoi c'est utile ou pas utile pour une encyclopédie critique du genre?
Alors, c'est un terme qui peut être remplacé par des synonymes qui sont peut-être plus parlants pour des personnes qui ne connaîtraient pas, comme, moi qui me semble plus parlant, comme approche multidimensionnelle des rapports sociaux ou approche imbriquée des différents rapports sociaux. C'est en effet une façon d'évoquer, une autre manière d'évoquer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est dominée dans toutes les dimensions de sa vie sociale et que selon sa position dans les rapports de classe, sa couleur de peau, on peut aussi avoir des privilèges en tant que femme dans certains domaines de la vie sociale, tout en étant discriminée en tant que femme dans d'autres. C'est le cas des femmes de classe supérieure qui rencontrent des discriminations dans leur carrière par rapport aux hommes de même milieu social et de même statut, du fait qu'elles ont en charge, par exemple, davantage d'activités familiales, tout en bénéficiant, par exemple, du travail d'autres femmes qui s'occupent de leurs enfants, ou tout en bénéficiant, en tant que blanche et diplômée, de privilèges par rapport à des hommes de classe populaire racialisés. Donc, c'est penser ensemble
la totalité.
Ces différentes articulations entre les dominations. Et ce n'est pas seulement parce que on réduit souvent l'intersectionnalité dans la façon dont elle est diffusée à un travail sur les gens qui sont à l'intersection de différentes discriminations, les femmes noires, lesbiennes, par exemple, qui subissent la lesbophobie, le racisme et le sexisme. Ce qu'on a voulu aussi montrer dans cette encyclopédie, c'est penser l'articulation des privilèges, c'est-à-dire dans la lignée des études de genre qui ont pensé la masculinité, qu'est-ce que c'est être masculin, qu'est-ce que c'est être un corps légitime, neutre, invisibilisé, le corps qu'il faut pour être un homme politique, par exemple. La question était de penser aussi d'autres types d'articulation de la domination raciale, de couleur, de classe. Et c'est l'entrée, par exemple, corps légitime qui problématise ces différentes questions.
C'est vrai.
Et d'un point de vue donc à l'université, comment se positionnent ces études de genre? Et surtout, est-ce qu'elles attirent des étudiants? Est-ce que ces problématiques-là, en tous les cas, fonctionnent et où? Parce que je crois qu'à l'EHESS, évidemment, des possibilités, des séminaires sur les études de genre, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres universités. Enfin, je vous pose la question en même temps.
Alors,
Oui, mais enfin...
Rosemary Lagrave.
Ne pensez pas que ça a été facile à l'école de hautes études.
Non, alors
j'en veux pour preuve que lorsque j'ai créé avec Eric Fassin ce master en études de genre, il a fallu quand même se battre pour que ça existe.
Et en quelle année, Rosemary Lagrave
En 1904. Non, ça non. fait 10 ans.
2006.
Je m'en souviens. Et maintenant, c'est Juliette Rennes qui dirige ce master. Et nous avons effectivement, elle en parlera tout à l'heure, énormément d'étudiants. Mais ce que je voulais dire, c'est que les études de genre, maintenant, sont académiquement reconnues, mais quand même à la marge. Il n'y a pas une légitimité, une consécration extraordinaire. Et on le voit avec le peu d'attribution d'allocations de recherche qu'il y a pour les étudiants. Donc c'est toujours relatif et c'est pas donné. Et en même temps, il y a des institutions, y compris à l'école des hautes études, où la parité dans les élections de collègues est loin d'être là. Hein.
Juliette Rennes,
sur cette question des étudiants.
Oui, alors évidemment, effectivement, Rosemary a créé, pour ce que je connais bien, le master sur le genre et la sexualité à l'EHESS avec 5 étudiants. Il y en a aujourd'hui 100. Il y a eu aussi cette montée des effectifs qui est visible à l'EHESS concerne aussi d'autres formations, non pas de master, mais des parcours de spécialisation. Il y a eu des créations de masters dans différentes villes, Bordeaux, il y en a un ancien à Toulouse, et puis il y a des dispositifs de formation continue sur le genre qui existent dans plusieurs villes parisiennes, dans plusieurs universités parisiennes. Donc il y a une demande étudiante qui contribue à légitimer auprès de nos collègues qui effectivement n'étaient pas forcément très convaincus
au départ,
qui acceptent que finalement ça fait partie des sciences sociales avec plus ou moins de bonne volonté, mais on est évidemment très très loin des 300 parcours spécialisés de master et de licence qui existent aux États-Unis, et c'est lié aussi au fait que l'organisation thématique et non disciplinaire, c'est-à-dire le champ des studies, gender studies, en fait, est assez orthogonal à la façon dont s'organise l'université française par discipline. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être qualifié, avoir une thèse qualifiée en études de genre et ensuite avoir un poste. On reste organisé par discipline.
Soit on est historien, soit on est anthropologue, soit on est sociologue, etc. etc.
Et en plus, à l'intérieur des disciplines, soit on est moderniste, soit on est médiéviste, soit on est contemporanéiste, par exemple, en histoire.
Ouais. Clyde Plumosil.
Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il faut encore aujourd'hui se battre pour maintenir le fait que la question du genre, les études de genre, soit un champ à part dans l'université. Il faut des passeurs volontaires. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Clément Martin à Paris 1 en histoire de la Révolution française, qui avait un cours en L3 sur les rapports hommes-femmes sous la Révolution. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de découvrir ce champ, puis par la suite de suivre un séminaire de master à Paris 1 sous la direction de Violaine Sébillotte à ce moment-là, qui était sur la question du genre en histoire, mais qui est un séminaire où il y a encore peu d'étudiants qui sont envoyés chaque année. Donc c'est un appel d'ailleurs à tous les collègues de Paris hein, d'envoyer leurs étudiants au séminaire, et qui relève de la bonne volonté des acteurs de l'université et pas de politique instituée qui permettrait du coup une régularité dans cette transmission du genre.
Mais...
et oui. Si je peux juste insister du coup sur cette question que ça reste encore beaucoup du bricolage, d'initiatives collectives, et que moi j'ai eu la chance par exemple d'avoir un groupe de recherche genre et classe populaire à l'Université Paris 1 avec d'autres chercheuses doctorantes et maintenant docteurs en histoire et en sociologie qui m'ont permis de construire ma réflexion en dehors et à côté de l'université où il n'y avait pas toujours la possibilité d'y trouver un lieu d'accueil.
Alors on pourrait dire et on pourrait laisser entendre que peu de chemin a été parcouru, il en reste beaucoup à parcourir, mais tout de même, quand Séverine Liattard, ici présente, m'a alerté en 2000 sur cette question du genre, alors que j'étais moi-même assez novice, c'est le moins qu'on puisse dire sur ces questions, on voit bien le chemin parcouru. Tout de même, entre 2000 et maintenant, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de productions qui ont été accomplies, et l'encyclopédie critique du genre est d'une certaine façon une pierre de touche qui permet de dire le chemin parcouru et ce qui reste à parcourir, en l'occurrence Rosemary Lagrave.
Le chemin parcouru est extraordinaire, depuis l'histoire des femmes en Occident de Michel Perrault et Duby, jusqu'à cette encyclopédie, mais aussi le dictionnaire dont vous avez parlé lundi,
dirigé par Christine Barre et par Sylvie Chapron.
Donc, il y a une production, moi je trouve les doctorants, donc les thèses, l'éventail des thèses et le contenu, l'importance, c'est extraordinaire. Ce que je voudrais dire, c'est que tu parlais de passeurs. Il y a toujours eu des passeurs et surtout des passeuses. Donc, mais en même temps, moi, je trouve que j'ai été aussi formée par mes propres étudiants. La transmission, elle se fait pas d'un côté. Elle se fait aussi avec les étudiants qui nous ont réouvert un certain nombre de problématiques.
C'est
de
la façon curiosité de faire, des étudiants qui peut faire changer les professeurs.
Qui nous stimule et qui nous oblige à bosser sur des thématiques ou avec des problématiques qu'on n'avait pas. Donc, je pense qu'il y a un cumul et il y a une progression. Mais le chemin est encore très, très loin à faire.
Merci à toutes les quatre d'avoir donc permis de comprendre effectivement ce beau message que les étudiants peuvent permettre d'apprendre à leurs professeurs. Encyclopédie critique du genre, dirigée par Juliette Rennes, avec vos contributions à toutes les deux, Rosemarie Lagrave et Clyde Plumosil. C'est à la découverte. Merci encore. Voilà pour l'émission de ce jour. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'histoire de la pharmacopée, histoire des médicaments et des remèdes. Et nous aurons le plaisir de recevoir lundi Samir Boumediene pour son histoire, La colonisation du savoir, un très grand livre, un livre très intéressant dont nous vous parlerons avec lui lundi. Et puis un petit erratum, je vous avais annoncé mercredi que le prix d'histoire Janine Ponty au musée d'histoire de l'immigration, Janine Ponty était une grande historienne de l'immigration des Polonais en France, se tenait mercredi dernier. Eh bien je m'étais trompé, c'est mercredi prochain le 15 à 18h qu'aura lieu la remise de ce prix à Catherine Gousseff. Donc excusez-moi pour cette annonce fautive et donc rendez-vous mercredi prochain le 15 à 18h au musée d'histoire de l'immigration à la Porte Dorée à Paris. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Pierrick Charge et Clément Daté étaient à la technique, et Véronique Samouilov et Françoise Camard à la réalisation aujourd'hui. Il faut dire également que Concordance des temps, l'émission de Jean-Noël Jeannet, donc qui parle d'histoire pendant le week-end sur France Culture, se tiendra demain, donc à 10h, comme tous les samedis. Et le thème de Jean-Noël Jeannet et de Concordance des temps sera l'invitation de Jean-Pierre Filu, Syrie aux racines du malheur. Donc demain dans Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, Jean-Pierre Filu autour de la question syrienne et de son histoire.